Bon, ben bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus à un horaire qui n'est, je le sais, pas très facile, mais je voudrais quand même remercier la librairie Mola de nous accueillir une nouvelle fois ici à la station Ozone. Je voudrais vous saluer d'être venus malgré, je disais, cet horaire pas facile. Je voudrais remercier, j'aperçois certains membres du jury. Monsieur Cattaneo, merci pour votre présence. J'aperçois certains membres de France Liberté. Merci à vous. Je voudrais remercier Nadège Agulot, aussi l'éditrice de Magdalena, pour sa présence amicale. Et je voudrais bien sûr remercier nos deux auteurs, Emily Boom, on va dire par ordre alphabétique, et puis Magdalena Platsova, qui ont accepté donc l'invitation conjointe du Conseil départemental et de France Liberté Gironde pour cette 20e édition du concours Citoyenneté européenne, parce que nous fêtons cette année la 20e édition. Je voudrais saluer aussi Pierre de Gaëtan, qui est donc élu municipal à Bordeaux, Beata, qui est là, amie de Emily, deux personnes, Solène et Hélène du Conseil départemental. Et merci à vous. C'est vrai parce qu'on vous voit pas, mais enfin, on peut identifier un peu chaque auditeur. Merci donc pour votre amicale présence. Donc, je voudrais tout d'abord remercier donc Emily, qui est une auteure franco-camerounaise, et Magdalena, qui est donc auteure de la République tchèque. Je voudrais les remercier, bien sûr, d'avoir accepté cette invitation, mais aussi pour leur enthousiasme, leur complicité, pour le duo très énergique qu'elles forment avec les collégiens. Et je voudrais vous remercier parce que vous répondez avec beaucoup de disponibilité, de gentillesse aux collégiens. On est à la fin du séjour, puisqu'elles sont là depuis le 15 jours bientôt. On a dans 15 collèges de Gironde. Et c'est vrai que les collégiens ont parfois tendance à les prendre pour des députées européennes, puisque c'est dans le cadre de la citoyenneté européenne, mais c'est aussi dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation contre le racisme et les discriminations. Mais je pense que les collégiens, ils sont beaucoup plus attentifs lorsque vous leur expliquez les mécanismes de la création littéraire, lorsque vous leur expliquez comment vous trouvez votre inspiration. Ils sont très sensibles lorsque Magdalena leur explique un peu le rideau de fer, la vie dans une dictature communiste et la couleur grise, là, ils deviennent très, très attentifs. Et lorsqu'aussi Emily leur raconte que l'histoire de l'Europe, c'est aussi son histoire. Et là, ils comprennent pas forcément, mais elle leur explique ça avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de références historiques. Donc rien que pour tout ça, votre présence est très importante. Voilà, je vais peut-être faire une présentation rapide des deux auteurs, mais en échangeant tout à l'heure, elles rajouteront des précisions, parce qu'au bout de ces 15 jours, on commence à les connaître. Alors, par cœur, pas par... Non, je ne sais pas tout, mais bon, je sais qu'Emily, elle est née.
On sort déjà les histoires, les anecdotes.
Les plus intimes. Oui, ça devient très intime.
Pour ne se pas ennuyer. Alors, on sort tout. Alors, tu sais vraiment.
Donc Emily, elle est née donc à Douala, elle a étudié l'anthropologie, elle a fait des études en France et elle a choisi de vivre avec sa famille à Paris. Elle a écrit beaucoup de poésie, de pièces de théâtre, d'articles de journaux, de presse. Elle écrit beaucoup de romans, elle a reçu des prix très prestigieux, notamment pour le dernier, les jours viennent et passent, le prix africain Amadou Kourouma. Donc, je sais qu'elle n'attache pas beaucoup d'importance au prix littéraire, mais c'est important quand même de le citer. Et tout comme Magdalena, elle a choisi donc de vivre avec sa famille à Paris. Magdalena, elle est née à Prague. Elle a été adolescente pendant la Révolution de velours. Elle a publié aussi beaucoup de poésie, de théâtre. Elle a même été actrice et elle a écrit beaucoup de romans. Et le seul roman qui est donc traduit en français, c'est le roman Le Sceau d'Aaron. Et merci encore Nadège, puisque Nadège Agulot, grâce à sa maison d'édition, nous fait un peu découvrir la République tchèque. Et grâce à elle, quand on pensera à la littérature tchèque, on pensera non seulement à Kafka et Kundera, mais on pourra rajouter Magdalena Platsova. Voilà. Donc, c'est une présentation rapide, peut-être, de nos deux amis, qui ont beaucoup de points communs, parce que toutes les deux, elles ont choisi donc de vivre et de s'établir en France avec leur famille. Toutes les deux, ce sont des romancières de talent qui prennent le lecteur par la main pour leur raconter des histoires. Et moi, je me souviens, lorsqu'on était dans le jury Prix Nouvelles Écritures avec Bernard Cattaneo, je me souviens de nos discussions enflammées, notamment avec Jean Vautrin, qui nous disait un bon roman, c'est quand il y a une belle histoire et qu'on reprend le livre avec envie parce qu'il y a des vrais personnages. Et je peux vous dire que quand vous lisez les deux romans de deux auteurs, effectivement, ce sont des romancières de talent. Et ce sont deux auteurs femmes qui écrivent sur des destins de femmes qui vivent dans des périodes respectives, des périodes historiques troubles. Emily nous raconte l'histoire de trois générations de femmes. Anna, la grand-mère, qui est en fin de vie. Abby, sa fille, qui se débat un peu dans des problèmes conjugaux avec son adolescent. Et puis une jeune fille qui sera prise après aux prises de Boko Haram. Vous évoquez la transmission, le deuil, la famille, la jeunesse au Cameroun. Et tous les problèmes très, à la fois très universels, mais aussi liés donc, à la spécificité du Cameroun. Et Magdalena, elle a choisi donc, de nous raconter le destin d'une femme autrichienne artiste, qui n'est pas très connue, mais elle superpose son récit de cette femme-là avec le récit du tournage d'une équipe israélienne qui est à la recherche donc, des traces de cette dessinatrice qui a appris le dessin aux enfants qui étaient internés au camp de concentration de Térézine. Voilà. Donc c'est un peu deux histoires qui se superposent. Et l'intérêt de ce beau roman, c'est aussi de nous montrer le foisonnement esthétique, culturel, politique qu'il y avait dans l'entre-deux-guerres de cette Europe centrale. Je pense que pour les élèves aussi, les collégiens, c'est très important puisque c'est ce qu'ils ont aussi au programme. Donc c'est à travers ce foisonnement esthétique et culturel que l'on découvre la vie de cette femme qui a cherché son indépendance, qui a cherché un peu son bonheur aussi et qui a essayé de s'échapper par l'art. Donc c'est aussi, vous posez aussi la question de l'art, du rôle de l'art dans nos sociétés. Est-ce que l'art a pu sauver ses enfants des terribles conditions dans lesquelles ils étaient internés à Térézine ? Peut-être que vous pouvez un petit peu nous parler de vos deux romans respectifs. Je sais qu'ils ont été écrits il y a longtemps, donc ils vivent leur vie naturellement maintenant. Mais bon, peut-être que Emily, tu peux peut-être nous en dire plus sur le rôle de la littérature, puisque lorsque vous rencontrez les collégiens, vous dites que vous avez écrit depuis toujours, vous avez beaucoup lu. Donc, quel est le rôle de la lecture? Quel est le rôle de la littérature pour vous? Emily, peut-être tu peux commencer.
Non, mais on a une face, on est organisé. Hein. En général, c'est Magdalena qui commence.
Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un collège. Voilà, spécial.
Alors, la question, c'est sur le rôle de la littérature dans
oui,
ma vie.
L'importance pour toi de la lecture, de la littérature, puisque tu dis que tu as toujours lu, que tu as toujours vécu dans les livres. Tu fais même dire à la grand-mère, je trouve les mots qui libèrent et dénouent. Donc, on sait que pour toi, la littérature a eu toujours beaucoup d'importance. Tu signales que ta maman était professeure de français. Donc, voilà, quel est le rôle de la littérature dans ta vie?
Alors, le rôle de la littérature, moi, je dis souvent à mes enfants que la littérature avait pour moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, le rôle que leur smartphone a pour eux aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était vraiment mon mode d'évasion et ça allait rester très longtemps. Et j'ouvrais un livre et tout d'un coup, je pouvais m'évader, je pouvais imaginer des mondes, avoir des réflexions très loin de l'endroit où je vivais. J'ai grandi à Douala, je suis allée à l'école à Douala et j'ai appris à lire sans connaître les auteurs. C'est-à-dire, je pouvais avoir le nom de l'auteur, bien sûr, mais toute l'adoration ou le respect dû aux auteurs de littérature parce que c'est des auteurs de littérature et que ça en fait des personnes particulières, je l'avais pas du tout. Je savais pas grand-chose sur les courants littéraires, sur ce qui compte, ce qui ne compte pas, en quoi est-ce qu'un livre s'inscrit dans une histoire particulière réelle. J'avais pas tout le background des livres et donc ce que je rencontrais c'était le livre tout seul, tout nu. Et c'est comme ça que j'ai aimé la littérature et c'est comme ça qu'elle m'a passionnée. Et je pense que d'une certaine façon, c'est aussi comme ça que je me suis dit, ah oui, je pourrais écrire. Parce que je me disais, si toutes ces histoires qui concernent des personnes dans des mondes que je n'ai jamais visités, j'ai connu Paris, Londres, mais aussi Bordeaux, New York et tout ça, d'abord par les livres, je les ai très largement imaginer avant de les voir pour la première fois. Et d'ailleurs, rien de ce que j'ai vu, mais absolument rien, pourtant, Dieu seul sait qu'il y a de belles choses, n'a eu autant de force dans mon esprit que quand je les ai lus. Tout était toujours beaucoup plus fort et beaucoup plus beau dans mon imaginaire. Et les livres ont servi à ça aussi. Et quand je lisais, je me disais, j'ai envie d'écrire. Je me disais immédiatement, ah oui, mais il faut aussi que je vous raconte ce qui arrive dans mon quartier, à ma mère, à ma tante, à mes sœurs. Toutes nos histoires me semblaient romanesques. Et je pensais que si tous ces gens du monde entier écrivaient ces livres qui ne m'étaient probablement pas adressés, je ne pense pas qu'ils adressaient leurs livres à Emily Boum Douala. Je ne pense pas du tout que j'étais dans leur public cible. Mais enfin, c'est ça qui est génial avec la littérature, c'est qu'elle transcende les frontières. Et ces livres-là m'ont trouvé où j'étais. Et je pensais que mes histoires, nos histoires aussi, pouvaient être racontées et qu'on pouvait en faire des romans et raconter le monde de cette perspective-là aussi. Peut-être que si j'avais connu, si j'avais eu un grand respect, une vénération pour les auteurs, peut-être que je me serais dit, oh là là, jamais je pourrais écrire comme ça. Mais pour moi, c'était d'abord de belles histoires. C'était d'abord des mondes et des univers, et je pensais que mon univers à moi pouvait être raconté aussi. La littérature m'a servi à ça. Ça n'avait rien d'intellectuel, ça n'avait rien de... J'étais pas du tout obligée de lire, personne ne me forçait. J'ai pas grandi non plus dans un pays où on te dit, oh là là, tu lis pas, mais c'est très grave. Ou comme j'entends aussi les mamans, mes amis dire, oh, mes enfants n'aiment pas lire, c'est terrible et tout. Non, tout le monde s'en foutait que je lise. Du coup, c'était très libre en fait.
C'était créer un univers à travers la lecture.
C'était mon univers à moi et sans contrainte et sans beaucoup de filtres non plus. Parce que le fait de lire dans un tel contexte, ça signifie aussi que vous lisez absolument tout. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de littérature pour enfants, de littérature pour adultes, il n'y a pas de... Personne ne me disait non, ça c'est trop dur pour l'instant, tu ne peux pas le lire. Et c'est aussi comme ça que j'ai appris que on a évidemment diverses versions d'un livre en fonction des âges de sa vie, que le regard que tu poses sur un livre à 15 ans n'est pas du tout le même que ce que tu poses beaucoup plus tard. Moi, à 16 ans, j'ai lu Anna Karénine et j'ai adoré, j'en ai pleuré, j'y ai pensé pendant... C'était la plus belle histoire d'amour que j'avais jamais lue de ma vie. Et des années... Oui, c'est ça. Des années plus tard, mariée avec des enfants, avec un peu de vécu, je me suis dit, bon, l'histoire est un peu bébête quand même. Tu vois, il y a un côté, comme ça aussi sur les livres que nous lisons.
Magdalena, qui a grandi, elle, dans un univers un peu aussi de livres, puisque tu racontes donc aux collégiens que ta maman était auteure aussi, ton père documentariste. Comment ça, tu as toujours écrit aussi, et pour toi, la littérature est essentielle.
Oui, bien sûr, je viens de trouver en fait mes poèmes de mes 7 ou 8 ans, plein des erreurs, affreux, comment j'ai écrit. Mais oui, j'étais en fait, c'était quelque chose, je pense que c'était vraiment une espèce de. Oui, c'était ma façon de créer, ma création, quoi. C'était ça, là, où je me trouvais. Oui, j'ai toujours écrit. J'ai un peu mimiqué ma mère aussi, il faut dire, parce que elle s'est entourée par une espèce de mystère. Elle était écrivaine, mais elle était aussi interdite comme écrivain dans mon pays. Alors, elle ne pouvait pas publier. Elle était d'abord journaliste, très ambitieuse, jusqu'à 1968, jusqu'à l'invasion russe. Elle a voyagé partout, elle avait une grande ambition de devenir un reporter. Et puis, en fait, tout ça, c'était fini avec l'invasion et ce qu'on appelle la normalisation, ce qui était en fait retour à un régime rigide, en censure, etc. Alors, elle était... il y avait... ça s'appelait les auteurs, il était sur index. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est index, mais c'était comme une liste des auteurs interdits. Et j'ai écouté dire que ma mère est sur index. C'était quelque chose vraiment mystérieux. Et puis elle était là, elle tapait sur... Elle avait cette grande machine, elle tapait, c'était intéressant. Alors je la mimiquais un peu. Et après, quand j'ai grandi, quand j'ai devenu adolescente, c'était contraire. Je voulu pas être comme ma mère, évidemment. Alors, puisqu'elle était là figure, la personnage dominatrice dans ma famille. Alors, j'ai voulu courir, quoi. J'ai voulu m'échapper le plus loin possible. Et alors, j'ai évité, j'ai toujours écrit. C'était vraiment quelque chose que... C'était un... Oui, c'était mon univers. Mais je faisais du théâtre, puis j'ai écrit de la poésie. J'ai évité, en fait, cette prose, fiction prose, parce que c'était ma mère qui a fait ça. Et quand j'avais presque 30 ans, j'ai accepté cette passion et cette vocation, et j'ai commencé à écrire malgré ma mère. Mais pour la lecture, oui, c'était un peu comme Emeline. J'ai beaucoup lu. J'ai lu en marchant, dans le bus. Tout le temps, quand j'ai commencé un livre, je ne pourrais pas la laisser. J'ai relu beaucoup. En fait, j'ai relu. J'avais quelques livres que j'ai relus tout le temps. Ah, il a passé un mois. Je me suis dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre. À nouveau. Et c'était 20 fois, je ne sais pas combien, 30 fois. C'était pas, en fait, c'était comme quand on écoute une chanson préférée. C'était comme ça, lire un livre préféré. Puis j'avais les morceaux d'une histoire que j'ai évité. Je sautais les pages quand il y avait quelque chose qui était trop triste ou effrayant. Je sautais les pages. C'était un paysage, en fait, le livre. C'était très matériel, très, très physique, très... je ne sais pas, c'était plus réel que la réalité. Ouais. Alors, oui, c'était ça. Et ça durait jusqu'à, mais je pense, oui, jusqu'à peut-être même à 18, peut-être 20 ans. Oui, quelque chose. Quand les troubles sérieux, amoureux sont commencés... j'ai un peu perdu cette passion de lecture, je pense.
Occupée par d'autres.
Oui, parce que j'étais trop troublée par ma vie, en fait, pour pouvoir s'échapper dans le livre si facilement. Ouais.
Tout à l'heure, je disais donc que vos deux romans parlent de destin de femmes. Dans le roman d'Emeline, il s'agit surtout de femmes. Bon, africaine, puisque ça se passe à la fois à Paris, puis après dans la deuxième partie au Cameroun. Ce sont des femmes qui... La force de ce roman, c'est que Emeline nous oblige à oublier un peu, à mettre de côté tous nos préjugés qu'on peut avoir sur les femmes africaines, qui ont certes les problèmes de toutes les femmes du monde entier, mais qui sont en même temps, on sent une force, elles sont regroupées, il y a beaucoup de complicité entre elles, beaucoup de sororité, on a envie d'être admises dans leur clan. Toute cette amitié, tout ça, tous ces échanges, ça fait vraiment envie. Elles sont très moqueuses, elles se moquent des hommes, et on a l'impression que c'est comme ça qu'elles peuvent gagner. Mais il n'y a pas d'agressivité vis-à-vis de la gente masculine, mais c'est plutôt constitue entre elles une force. Et je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur la description que vous faites de ces cercles de femmes, de ces clans de femmes. Est-ce que vous considérez comme une auteure féministe ou pas? Quel est votre regard sur le féminisme de façon universelle?
Ça m'a pris un peu de temps parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée par rapport à mes romans. Il y a des auteurs qui... Enfin, c'est surtout les lecteurs, parce que l'intention du livre n'est pas féministe. Enfin, je n'écris pas en me disant « je vais écrire un roman féministe ». Mais les retours que j'ai des lecteurs de tous bords me disent « ah oui, mais les femmes de vos romans, on sent des femmes fortes, on sent... des femmes aux prises de la vie, mais qui s'en sortent. » Et en même temps, je n'ai pas du tout l'impression d'écrire sur des femmes fortes. D'abord, je n'aime pas du tout cette expression de femme forte, parce que je sais aussi quel est le coût de la force. Et c'est plus de ça qu'il est question, ce à quoi ces femmes sont confrontées, ce qu'elles font pour vivre. Donc cette force qu'on leur envie et qu'on admire, je sais aussi dans la réalité qu'elle en est le coût en termes de renoncement, en termes de santé, en termes de douleur aussi. Et voilà. Et donc ce terme force, en revanche, ce que je souhaite faire, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de décrire des personnages féminins qui soient dans une large palette de nuances, dans toute leur complexité. Parce que pendant longtemps aussi, dans une génération de littérature africaine, lorsqu'on parlait des femmes, c'était soit les mamans africaines, tellement que tout le monde adorait, qui avaient tout fait, qui avaient tout sacrifié, et qui étaient un petit peu incontournables dans la littérature. Et en général, c'était une littérature masculine aussi, de présenter la femme comme que cette maman africaine un peu incontournable, un peu sans tâche et sans défaut. Ou alors, c'était des putains. C'était des femmes faciles, des stéréotypes de femmes. Et dans ce qui s'écrit aujourd'hui, je trouve que les femmes, quand on parle de femmes africaines, quand les auteurs parlent de femmes africaines, ils sont beaucoup plus nuancés. C'est des personnages qui ont une vraie vie, une vraie psychologie, un vrai recul, et qui ne sont pas là pour être aimés ou désaimés. C'est simplement des personnages qui viennent nourrir et la fiction. Et ces trois personnages féminins qui sont décrits dans ce livre, c'est comme ça que je les espère. Elles ne sont pas... c'est pas des gentilles. Elles font plein elles font plein d'erreurs, y compris avec leurs enfants, y compris dans leur intimité ou dans la société. Elles croient savoir, elles ne savent pas, elles se trompent, elles recommencent et elles en souffrent. Voilà, c'est la vraie vie. Et ça aussi, c'est possible. Ça aussi, c'est poser un regard qui ne mystifie pas. D'une certaine façon, ça me semblait important aussi. Et de poser ce regard-là, oui. Du coup, on dit, alors, est-ce que vous êtes féministe? Est-ce que c'est des combats de femmes? Alors, il faut aussi entendre que la question de ce combat, c'est est-ce qu'on peut être juste une simple personne? Sans, voilà, qui n'est pas une image, pas une juste...
Échapper à tous les stéréotypes voilà, possibles.
C'est ça. Échapper aux stéréotypes, y compris les siens, y compris ce qu'on considère comme étant ses devoirs ou je sais pas quoi. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce type de littérature, c'est la parole féminine à l'intérieur des cercles féminins. Parce que ce n'est pas forcément une parole qu'on entend à l'extérieur ou qu'on entend qui est une parole mainstream qu'on entend dans les médias ou ailleurs. Là, cette parole féminine peut être très riche. Le Cameroun est aussi organisé de façon à ce qu'il y ait des groupes non mixtes. L'existence de groupes non mixtes est un peu la norme. En fait, il y a dans toutes les organisations, les villages, les communautés, les églises, les quartiers, il y a des groupes, même y compris dans les entreprises. Dès qu'on organise quelque chose, il y a le groupe des femmes, le groupe des hommes et puis le groupe de tout le monde. Et la parole en non-mixité, je la trouve extrêmement précieuse. Parce que c'est une parole qui n'a pas forcément vocation à d'abord elle est pas forcément morale, elle est amorale, elle a un côté un peu
elle est libre.
Exactement, c'est ça, elle est plus libre je trouve qu'elle est c'est pareil, je trouve qu'elle n'existe pas suffisamment en littérature. Alors on appelle ça la solidarité féminine. Oui, il y a une vraie forme de solidarité, en effet, mais il y a aussi une liberté qui a besoin d'un espace pour s'exprimer. À partir du moment où c'est la société qui éduque les femmes, parce que le corps des femmes, le soin donné au corps des femmes est très codifié. Et en général, il passe par les autres femmes. Sauf que dans nos sociétés modernes, y compris en Afrique, aujourd'hui, c'est la société qui prend soin des femmes. Donc, ça déplace tout, le lien aux autres femmes, le soin que les femmes peuvent s'apporter, la parole qui peut circuler, tout est déplacé et il faut un espace où cette parole s'exprime. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant en termes de matériaux romanesques.
Et en ce qui concerne donc notre amie tchèque, Magdalena, je voudrais qu'elle puisse nous raconter le point de départ de ton récit, le sceau d'Aaron. Donc, c'est l'histoire de cette femme, Friedel Dicker Brandeis, qui n'est pas une artiste connue. Je voudrais que tu puisses nous en dire davantage, puisque tu la connais bien, toi qui as écrit sur elle et qui est partie aussi à sa recherche. Et pourquoi le choix de ce point de départ? Pourquoi le choix de cette femme pour ce roman?
Je voudrais encore juste un peu, tu peux réagir à toi, parce que quand je t'écoute, je suis un peu jalouse. Parce que tu vois, je pense que cette communauté des femmes, ça n'existe plus chez nous. Ça.
Je pense que...
Mais peut-être même ça devient un peu non existant chez vous aussi, je ne sais pas, avec la vie moderne. Mais tu vois, je vois, parce que j'ai fait pas mal de réflexions dessus, et là, je vois, tu vois, au moins trois générations où les choses ne passent pas de la mère aux filles. Déjà, ma grand-mère était aussi une artiste. Et ouais, c'était bien qu'elle était artiste, elle était tout ça. Mais en même temps, elle n'a pas passé quelque chose à ma mère qui n'a pas pu passer quelque chose. Et quand j'ai ma propre famille, tu vois, je deviens un peu... Oui, je me dis, mais cette chose-là, on apprend. En fait, on ne peut pas apprendre dans les livres, on ne peut pas apprendre dans l'école. Ça se passe d'une mère. Et là, je suis pas traditionnelle ou, tu vois, conservatrice. Mais il y a des choses qui, en fait, tu peux pas partager avec quelqu'un d'autre qu'avec ta mère ou ta grand-mère. Et quand ce lien est rompu, je pense que c'est un peu difficile de te retrouver dans ta vie de femme.
On peut aussi réfléchir à une société parce que... oui, c'est aussi aujourd'hui au Cameroun, de moins en moins, ce roman aussi, le roman des liens qui ne se sont pas faits. Et on peut aussi réfléchir à une société qui se construit en détruisant, ce lien-là. Qu'est-ce qui se transmet de femme à femme, de mère en fille ou de grand-mère, de communauté de femmes à communauté de femmes, qui finalement est tellement combattue par la société. Je pense au bébé. Je sais que moi, chez moi, quand une femme a un bébé, il y a toute une communauté de femmes autour d'elle. Vraiment, c'est quelque chose dans le soin, encore aujourd'hui. Mais ça se perd aussi parce que les jeunes couples ne tiennent pas spécialement. Parce que ça se perd, ça devient archaïque et disqualifié. Mais ce qui se fait là, dans l'apprentissage des différentes étapes de la vie, mais ça concerne tellement de choses, et le corps des femmes, le passage à l'adolescence, la maternité, la ménopause, qui est aussi une période de la vie qui est très codifiée dans nos sociétés. Tout ça aussi se perd. Et on peut se demander, oui, qu'est-ce que c'est quand on ne peut plus transmettre, quand les femmes ne peuvent plus se transmettre ce...
En fait, oui, en résultat, tu te sens vraiment un peu seule, un peu abandonnée, parce qu'il faut trouver, il faut réinventer tout ça pour toi-même, et ça marche pas toujours très bien. Moi, ce qui, en fait, pour enchaîner, c'est un peu l'histoire de ma héroïne, Bertha, qui était aussi un peu seule, parce que sa mère était morte quand elle avait 14 ans, et... c'était quelqu'un qui était né à Vienne en 1900. Elle a étudié à l'école artistique d'abord à Vienne et après à Bauhaus, qui était, vous connaissez peut-être tous Bauhaus, c'était une école iconique de l'art moderne, qui en fait commençait juste après la Première Guerre mondiale comme un laboratoire de l'art libre. C'était un laboratoire où Walter Gropius, qui est un architecte, il a fondé cette école et il a en fait amené tous ces artistes et les élèves, les étudiants, pour trouver une nouvelle... C'est la forme ou le forme ? Une nouvelle forme, merci, de l'art pour, en fait, remplacer religion. C'était quelque chose de très spirituel, très passionné. Et ma héroïne, elle était là dans ce temps-là, au début de Bauhaus. Après, l'école a évolué avec la pression de commerce, ils ont dû survivre, alors ils étaient pressés à produire les choses, à les vendre, et ça, petit à petit, ça est devenu une école de design, ce qu'on connaît comme Bauhaus, les chaises, Bauhaus, etc. Mais au début, c'était vraiment différent, c'était quelque chose de très libre, très expérimental, il y avait toute cette énergie de folle des années après la Première Guerre mondiale, Je décris un peu ça dans mon livre, là, où les gens sont parlé les langues, ils sont inventé les danses, ils sont inventé les... c'était vraiment très imaginatif. Et le jeu d'enfant, c'était quelque chose de sacré. Alors, ils ont, en fait, l'enseignant de Friedl, ce qui était le modèle de ma Bertha, c'était quelqu'un qui un grand pédagogue de l'art, Johannes Itten, un Suisse, qui a en fait son base, il a recherché la liberté d'enfant dans la création. Alors enfant, la créativité, le point de vue, la capacité de regarder le monde, de percevoir avec cette pureté ou naïveté des enfants, c'était quelque chose, c'était le but en fait de se débarrasser de se débarrasser de tous ces fardeaux de c'était quelque chose. Oui, la guerre, c'était un grand déception de la Première Guerre mondiale qui a fait que en fait ils ont jeté tout l'héritage de et ils ont cherché ce l'art absolu moderne. Ma héroïne, c'était une femme aussi qui avait un côté. Elle a voulu les enfants. Elle a voulu vivre avec un homme qu'elle aimait. Et puis alors je suis sa vie qui était en fait dans ses propres yeux et même regardée de dehors, on pourrait dire que c'était un échec sa vie dans tous les parce qu'elle n'a pas réussi d'être une grande artiste. Elle avait du talent, elle a fait de belles choses, mais à la fin, elle a fini comme un designer des choses. Et puis, elle n'a pas réussi d'avoir un enfant. Elle a vécu pour longtemps avec un homme marié qui n'a pas voulu vraiment être avec elle full-time. Et puis, alors, je suis cette femme avec tout ça. Il y a en fait deux côtés, parce qu'il y a ce côté intellectuel ou ambitieux de rompre tout, de se libérer de tout. Et puis, il y a un autre côté qui vous tire toujours, qui vous fait mal. Et c'est ce conflit de... D'ailleurs, même dans mon livre qui est venu après, j'ai toujours un peu... parle de cette contradictoire de première génération de gens, des modernistes, des anarchistes des années 20 et tout ça, qui sont proclamés cette grande liberté d'homme, mais en fait, leur vie était un peu... c'était pas, ils ne savaient pas comment vivre avec cette liberté. Bon, nous, on ne sait pas comment vivre avec cette dictée de liberté, avec la dictature de liberté.
C'était lié au contexte historique aussi.
Oui, parce que c'était tout nouveau. C'était en fait... c'était toute cette idéologie aussi. Elle a passé par cette école où tous ces enseignants, tous ces maîtres, il y avait très très forte idée de ce qu'il faut faire, comment il faut créer, comment il faut vivre. C'était après ça devenu toute cette liberté est devenue un fonctionnalisme. Alors tout était en fonction de quelque chose. Et, en fait, pour elle, quand tout a tombé un peu à part, puis elle a dû se fuir de Vienne à Prague, et dans cet échec, dans cette elle a commencé à trouver lui-même, elle-même.
Son indépendance, son
identité. Indépendance, mais aussi son art, qui n'était pas du tout l'art moderne, qui était en fait l'art à elle. Elle a commencé à peindre vraiment de ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a osé. Et alors, il y avait un chemin lent et prudent de quelques libérations personnelles qui a fini brutalement avec la déportation à camp de concentration de Térésine. Moi, j'ai fait, en fait, il y a un petit parti autobiographique, parce que j'étais cette fille qui a traduit pour une équipe de cinéastes qui sont venus d'Israël faire un film sur Friedel. Et j'avais de la chance de rencontrer les vieilles dames qui étaient les élèves anciennes de Friedel au camp de Térézine. Il y avait pas beaucoup, il y avait 3 ou 4 qui sont survécus à Auschwitz. Elles sont même pas parties pour Auschwitz. Si oui, ils n'auraient pas survécu. Alors, je pouvais entendre leurs témoignages. Ces vieilles dames, elles se sont dit, bon, Friedel, c'était quelqu'un qui nous a sauvé notre enfance, et qui nous va, en fait, qui rayonnait de joie, qui rayonnait d'énergie. Et c'était quelqu'un qui, en fait, qui nous a sauvé par nous apprendre, par nous enseigner, par
en nous enseignant le dessin.
Oui, oui, voilà. Et c'est vrai, quand on voit ce dessin des enfants de Térézine, c'était en fait, c'est comme ça que Friedel était découverte comme une artiste, comme une enseignante de Térézine, parce que on se demandait, on a retrouvé ce dessin dans une valise à Térézine après la guerre. On se demandait, mais comment c'est possible que ces enfants sont pu créer quelque chose si beau, si libre, tous ces papillons coloriés. Il était dans les prisons, il était condamné à la mort, ils ont eu faim. Comment c'est possible? C'est comme ça que le monde a trouvé Friedel, qui en fait, dans les dernières années, elle a eu même quelques expositions d'elle, de sa propre art. Alors, sa connaissance a monté un peu depuis la guerre. Elle n'a jamais créé un grand œuvre, mais il y avait des choses qui sont très, très bien, très intéressantes. Nadège, en fait, elle a fait, Nadège Angulot, ils ont fait un petit livrette pour accompagner mon livre, ce qu'il y a personne à faire. C'était vraiment très, très bien, très touchant. Ils ont fait ce petit livret où on peut trouver en fait les reproductions de d'art, de peinture, de dessin de Friedel. Alors, oui, voilà.
Et peut-être qu'un metteur en scène voudra s'emparer aussi de cette histoire pour la montrer au plus grand nombre aussi, à partir de ton roman. Pourquoi pas. Merci Magdalena. Et je voudrais, avant de peut-être céder la parole, si vous avez des questions pour nos deux auteurs, revenir sur le livre d'Emelet qui s'ouvre, donc je disais, sur l'importance de l'éducation, l'importance des livres, sur cette ouverture sur le monde, et qui se termine dans un espèce d'enfermement avec ces jeunes aux prises de la secte de Boko Haram. Et je voudrais demander à Emelet si elle peut nous dire justement pourquoi cette emprise de Boko Haram sur cette jeunesse, et quel est son point de vue sur l'avenir de cette jeunesse au Cameroun, mais peut-être sur l'Afrique en général, parce qu'on ne peut pas raisonner uniquement peut-être sur le Cameroun. C'est ce que tu connais peut-être le mieux, mais qu'est-ce que tu penses peut-être de la... Je sais qu'il y a une commission qui a été mise en place dernièrement avec un grand chanteur, c'est ça, Bissi. Ou est-ce que les Camerounais attendent quelque chose, attendent des justifications historiques, revenir sur les faits du colonialisme, parce que dans le livre d'Emelet aussi, tu parles de ce silence, le silence dont s'est emparée toute une génération post-coloniale et ne disant rien aux jeunes générations après. Donc, quel est le rôle de ce silence? Est-ce que cette commission va pouvoir établir des faits historiques? Je ne sais pas. Quel est ton point de vue là-dessus, Emelet?
Je vais d'abord revenir sur la raison pour laquelle j'ai écrit. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, comment ce livre est né, en fait. Ce livre est né d'une chose très claire, c'est l'attentat de Charlie Hebdo. J'étais, comme tout le monde, devant ma télé à Paris, parce que je vis à Paris, et je regardais effarée et effrayée, la même chose que nous tous, en train de me dire, mais qu'est-ce qui arrive, cette violence qui se déversait là. Et une semaine, presque jour pour jour après, il y a eu un attentat dans l'extrême nord du Cameroun, dans une ville appelée Kolofata. Il y a eu un attentat de Boko Haram et il y a eu 150 morts. Les deux événements étaient vraiment concomitants à une semaine d'intervalle. Et pour moi, ça a été une vraie déflagration parce que j'ai eu l'impression que tous mes univers étaient en train d'exploser de la même violence, que ce soit le pays dans lequel je vivais ou le pays d'où je venais et dans lequel j'ai énormément de liens et je reste hyper attentive à tout ce qui se passe. En fait, la même violence un peu sauvage et inattendue compte tenu de ce que sont ces sociétés-là était en train de s'abattre là, et j'en étais un peu pétrifiée. Et ensuite, il s'est passé quelque chose aussi qui a été observable, c'est que le monde entier s'est saisi de l'attentat de Charlie Hebdo et a exprimé sa compassion. Le monde entier, y compris le Cameroun, ce qui est parfaitement normal. Cette compassion est parfaitement normale. Ce qui m'a moi frappée, c'est que, à l'inverse, à Kolofata, il n'y a rien eu. Ça a été un silence total. On n'en a parlé nulle part. Même pas à l'intérieur du Cameroun. Très peu, c'est-à-dire quelques articles de presse, mais il y a eu 150 personnes qui sont mortes là, dans ce pays-là, et il n'y a rien eu. Quand je travaille sur Les jours viennent et passent et que j'en parlais aux personnes que je connais à Douala ou à Yaoundé, en leur disant « Est-ce que vous êtes au courant ?» Évidemment, on était vaguement au courant qu'il y avait de l'extrémisme, de l'islamisme dans le nord du Cameroun. Et encore, on n'était même pas tout à fait sûr que c'était le nord du Cameroun. Pour nous, c'était plus le Nigeria. La situation n'était pas très claire, y compris pour les personnes dans le pays. Ma question à moi, ça a été pourquoi ? Comment est-ce possible que le monde ne témoigne pas de ce qui se passe chez nous ? Je peux l'entendre, 150 personnes, c'est énorme et Dieu seul sait que tout le monde a son lot de catastrophes. Mais que le Cameroun lui-même n'en fasse pas plus état, ça m'a beaucoup interrogée. Et le livre vient de là. Et c'est ça qui est bien avec la littérature parce que le roman, c'est pas le temps de l'information ou même le temps du choc. J'ai le temps d'encaisser le choc et d'en faire quelque chose. Et donc, je peux étaler le temps long de la littérature pour comprendre ce qui se passe dans ce pays en termes de cloisonnement dans les luttes, en termes de cloisonnement dans les espérances et en termes de silence. Et depuis quand nous portons ce silence ? Depuis quand ce silence fait partie de nous, fait tellement partie de nous que nous affichons une forme d'indifférence à ce qui arrive aux voisins, alors que nous sommes tout à fait capables de nous passionner et de pleurer pour ce qui est en train d'arriver à Paris avec Charlie Hebdo. Et c'était toute cette histoire, en fait, qui m'intéressait à étudier. Et quand on commence à regarder le Cameroun, à regarder la façon dont le pays est organisé et les problématiques importantes qui se posent, en creusant, on se rend souvent compte qu'elles viennent de ce silence qui vient de la période de la lutte des indépendances, de ce qu'on a pu en dire et de surtout ce qui ne s'est pas dit. Ce qui ne s'est pas dit pendant de très nombreuses années, quand c'était extrêmement difficile de prendre la parole sur ce sujet, ce qui n'a pas été enseigné à l'école. Moi, j'ai fait toutes mes études au Cameroun, j'ai quasiment pas rencontré cette histoire. Je l'ai rencontrée beaucoup plus tard dans ma vie. Et une fois que je l'ai rencontrée, et que j'ai écrit mon précédent livre qui s'appelle Les Maquisards, c'est comme souvent, et cette histoire, je l'ai aussi entendue souvent, j'ai su que je savais. J'ai su que j'avais toujours su et que, d'une certaine façon, c'était inscrit en moi. Mais ce n'est pas archivé, c'était nulle part. Et si on ne fait pas attention et si on n'est pas capable d'écrire aujourd'hui, alors cette histoire, ces 150 morts de Kolofata et d'autres, ben, eux aussi, ils vont rentrer dans le silence. C'est la construction du silence. Et ça s'est passé en deux façons au Cameroun. Pendant très longtemps, c'était juste l'interdiction de parler totale. Et ensuite, il y a eu l'autorisation de parler, mais ce qui s'est mis en place, c'est une forme de cacophonie. Parce qu'il n'y a pas un travail mémoriel qui est fait. Il n'y a pas un travail dans l'histoire et l'apprentissage de l'histoire. Du coup, toutes les versions se valent. Et on entre dans une sorte de cacophonie où la vérité est aussi menacée et menaçante qu'elle a pu être dans le silence. Et dans ce contexte-là, qu'aujourd'hui, lors d'un voyage au Cameroun, Emmanuel Macron dise on va mettre en place une commission pour réfléchir à l'histoire coloniale du Cameroun, c'est juste encore une, c'est un élément de la cacophonie, en fait, dans la mesure où le Cameroun n'a rien demandé, le Cameroun n'est pas forcément impliqué. Les Camerounais font un travail ou ne le font pas, en tout cas sont dans une autre, dans une démarche, et que cette démarche-là, on ne sait pas en fait pourquoi, qu'est-ce que, voilà.
C'est les Camerounais les premiers concernés.
Oui, voilà. Y a une qu'est-ce démarche que, faite, qu'est-ce, c'est qu'est-ce qui, à quoi répond-elle? Ces événements ont été très largement étudiés par. Quand j'ai commencé à travailler dessus, j'ai découvert une littérature très importante sur. Cette guerre qu'on appelle même pas une guerre, est-ce qu'il y a un nombre de morts, où sont les archives? Il y a des tas de gens qui travaillent dessus depuis de très nombreuses années au Cameroun ou ailleurs, et en fait ces gens-là ne font pas partie de la commission, tout simplement. Donc il y a quelque chose, oui, qui se met en place, mais c'est politique, ça n'est pas, les Camerounais se sentent absolument pas
étrangers à ça,
bah, c'est-à-dire que quel est le, à quoi répond-on en fait, à quoi, quel est le, quelle était la question? Pour avoir cette réponse, quelle était la question? C'est comme Kolofata, les 150 morts. C'est pas une cause, c'est une conséquence. Si on veut comprendre ce qui se passe là, ça ne peut être qu'un long chemin de déconstruction, et c'est aussi une forme d'acceptation de se dire on va probablement découvrir des choses qui vont pas nous plaire. Parce que toute une partie de des massacres après l'indépendance l'ont été aussi alors que le Cameroun était déjà indépendant et que le pouvoir était camerounais. Donc il y a toute une partie aussi de cette histoire. Il faut s'attendre à ce qu'elle ne nous plaise pas, mais on peut pas comprendre ce pays, on peut pas comprendre le silence l'extraordinaire incapacité à se mettre en groupe, à former un mouvement, parce que toutes les générations au Cameroun essayent de faire bouger les choses. Toutes les générations. La génération post-indépendance a essayé. Il y a eu les massacres qu'on connaît. Dans les années 90, pendant qu'il y avait la chute du mur de Berlin et les changements qu'il y avait dans le monde, au Cameroun, il y avait un mouvement, un extraordinaire mouvement de liberté et de démocratie. Mais comme beaucoup de pays en Afrique, la question du bien et du mal de l'Est ou de l'Ouest ne se posait pas. Donc, il n'y avait pas de porte de sortie. La seule chose qui est importante quand il s'agit d'Afrique et de politique, en général, c'est les intérêts. Et pour les intérêts, tout le monde se met d'accord. Donc, c'est compliqué. Les portes de sortie ne sont pas évidentes. Il y a eu 90, il y a eu 2008, les soulèvements contre la faim et l'augmentation des prix. Enfin, chaque génération fait sa propre guerre, mais aucune génération ne transmet à l'autre. Parce que si on n'écrit rien, si on enseigne,
n'existe pas.
Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre du tout que rien ne s'écrive.
Merci Emelé, merci Magdalena.